bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette deuxième émission de Fahrenheit 451, l'émission des livres qu'ils n'ont pas encore brûlés. Alors ce soir, le programme, c'est...
L'Espagne. Bonjour à tous et bonjour Michel.
Bonsoir Olivier.
Donc au programme ce soir, l'Espagne avec donc deux romans publiés en Espagne il y a une petite quinzaine d'années. L'un écrit donc par une romancière qui s'appelle Rosa Montero et l'autre par un romancier et poète qui s'appelle Andrés Trapiello. Alors il y a un point commun entre ces deux romans.
Alors je pense que le point commun que tu y vois, c'est la guerre d'Espagne, puisque dans le roman d'Andrés Trapiello, effectivement, la guerre d'Espagne est vraiment la trame de fond principale. Et dans le roman de la romancière, tu m'avais dit que c'était plutôt en toile très éloignée, un des personnages qui l'a vécu.
Tout à fait, c'est ça. C'est un des personnages qui a traversé la guerre civile et qui raconte ce qu'il a vécu. Donc c'est disons assez indirect, c'est pas vraiment le sujet principal de ce roman. Par contre, toi, ça l'est vraiment complètement.
Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas l'émission comment ça va se dérouler ?
Alors donc, nous allons vous proposer un petit résumé, une petite chronique donc des deux livres que nous avons lus. Et ensuite, nous vous proposerons des extraits de ces romans.
Très bien, très bien. Alors on commence par lequel ?
Rosa Montero, voilà.
Très bien, très bien. La fille du cannibale, écrit par Rosa Montero, est publié aux éditions Métayer dans la collection Bibliothèque Hispanique et traduit de l'espagnol par André Gabastou. Olivier, c'est à toi.
La fille du cannibale s'appelle Lucia Romero. Elle a une quarantaine d'années, écrit des contes pour enfants. Et pour l'heure, elle est assise dans un aéroport, face aux toilettes. Son mari, Ramon, alors que leur embarquement est tout proche, pénètre dans ses toilettes. Mais il n'en sortira pas et commence pour Lucia une aventure qui l'entraînera vers une nouvelle vie. Car ce Ramon, fonctionnaire du ministère des Finances, a en fait été enlevé par une mystérieuse organisation du nom de Fierté Ouvrière qui réclame une importante somme d'argent. Cet argent, Lucia va découvrir que son mari le possède et qu'elle n'en savait rien. Tout comme elle savait finalement peu de choses sur ce mari, sur ses propres parents et sur elle-même. Ce roman, qui porte pour nom « La fille du cannibale », est donc une enquête pour retrouver ce mari disparu. Pour cela, Lucia est rejointe par deux personnages, deux hommes que tout sépare, surtout l'âge. Félix Roblet, le voisin de palier, vieil homme, veuf, qui se révélera plein de ressources. Et Adriane, jeune bohème d'à peine 20 ans, qui réveillera le désir et le corps endormi de Lucia. Nous allons donc suivre un trio d'enquêteurs amateurs se lançant dans des aventures parfois drôlatiques, multipliant les maladresses et les mauvaises rencontres. Ne croyez pas pourtant que le récit est bien linéaire, puisqu'il alterne l'enquête pour retrouver ce mari disparu, l'occasion de croiser corruption et grand banditisme, les interrogations de Lucia, que son entrée dans la quarantaine perturbe, et enfin le récit de la vie de Félix Roblet, qui se révèle être un ancien torero, un ancien anarchiste, qui dans ses années d'adolescence fut le compagnon de route de Buenaventura Durruti. Rosa Montero, l'auteur espagnol de ce roman, a réussi à entremêler le portrait d'une femme, qui va apprendre à assumer ce qu'elle est, et le portrait d'un vieil homme, dont le destin croisera un temps l'histoire désormais bien connue des mouvements anarchistes espagnols. Ce Félix apparaît comme une autre figure de père qui permettra à Lucia de se libérer. Moi, dit-elle, il m'a fallu atteindre 41 ans, il a fallu qu'on kidnappe mon mari, puis qu'on ne l'ait pas kidnappé, qu'un garçon deux fois plus jeune que moi me dise qu'il m'aimait, et que Félix, surtout Félix, me raconte sa vie, pour pouvoir me libérer de parents imaginaires que je gardais comme des otages en moi, ces parents unidimensionnels et schématiques contre lesquels se fracassait si souvent ma propre image. Elle était la fille du cannibale, un ancien comédien dont elle croyait toujours les histoires. Elle est devenue Lucia, une femme qui va donner un nouveau sens à sa vie. Les cahiers de Justo Garcia, roman d'Andrés Trapiello, publié dans la collection La Petite Vermillon des éditions La Table Ronde, roman traduit de l'espagnol par Alice Deon.
C'est dans une bibliothèque que s'ouvre le prologue du roman Les Cahiers de Justo Garcia. L'auteur nous confie le résultat de sa recherche sur la retirada, la retraite de l'armée républicaine à la fin de la guerre d'Espagne. Il a déniché le journal intime d'un soldat, Justo Garcia, et, ému par son histoire, nous la restitue. Je vous laisse donc, lecteur, avec le journal de Justo Garcia, et vous donne rendez-vous à l'épilogue qui clôt cette histoire, qui vaut autant, sinon plus, que n'importe quel roman, car elle n'a pas eu besoin de la fiction pour être vraie. Ainsi se termine le prologue, où Andrés Trapiello, l'auteur, avoue l'authenticité de l'œuvre et nous prévient de la véracité des faits. Pourtant, Justo Garcia n'a pas existé. Ou plutôt, ce Justo Garcia est une invention. Ce qui est vrai, alors, c'est l'horreur de la débâcle qu'ont vécu des milliers d'hommes. Nous suivons dans les pages du journal de Garcia la lente et douloureuse suite des républicains espagnols hors de l'Espagne franquiste. Nous connaissions l'horreur des camps, l'horreur des combats, des tranchées, bref, l'indescriptible désolation qui règne au cœur de la guerre. Dans ces pages, Justo Garcia nous livre une autre horreur, celle de la retraite, de la débâcle, celle de la fin de la guerre, celle des vaincus, des perdants. Les solides convictions qui liaient les hommes entre eux au début du conflit tombent en charpie quand règnent la faim, le froid et la maladie. Mais en tant que lecteur, français de préférence, il y a une autre horreur dans ces cahiers. Nous savions que le glorieux Front populaire a refusé d'aider les républicains à l'entrée du conflit en 1936. Mais en 1939, lorsque les républicains sont chassés et poursuivis, que savons-nous, nous, français? Pas grand-chose ou rien. Des milliers de Justo Garcia franchissent la frontière sous le regard humiliant des gendarmes français. Des milliers de Justo Garcia vont pourrir dans les camps en attendant d'avoir des papiers pour rester en France, sous le joug ignoble de l'autorité française. Des milliers de Justo Garcia vont vivre comme des chiens, traqués comme des bêtes par la police française, complices du pouvoir franquiste pour les rapatrier en Espagne. Ces Justo Garcia vont connaître l'entassement dans des camps dégueulasses, où règne la puanteur de la mort et de la maladie, la crainte des Français et des Françaises à leur égard, le délit de faciès, la pauvreté. Tout ça parce qu'ils sont espagnols, parce qu'ils ont fui, parce qu'ils migrent loin de la dictature. La France n'est qu'une étape pour ces Justo Garcia. La plupart veulent rejoindre le Mexique. Alors ils s'entassent encore dans des cargos, sans vraiment savoir s'ils vont survivre à la traversée. Car toujours les accompagnent la faim, la maladie, la honte d'être espagnol, la marque de l'exil. Qu'on soit en 1939, en 1942 ou en 2016, quand des hommes et des femmes, des êtres humains, demandent l'accueil, nous leur crachons à la gueule notre supériorité française. Lire les cahiers de Justo Garcia, c'est comprendre que pour la gloire d'un tissu teinté de bleu, de blanc et de rouge, nous sommes fiers d'humilier l'humanité. Chers auditeurs et auditrices, nous allons maintenant passer aux extraits lus et nous commençons par le premier extrait de La fille du cannibale. Alors dans ce passage, nous suivons les ravisseurs du mari de Lucia qui rentrent en contact avec elle pour une deuxième fois.
Toujours est-il qu'entre l'anxiété due au kidnapping et mes sempiternelles peurs, je ne fermais pas l'œil de la nuit. Et quand enfin à l'aube je m'écroulais, c'était un sommeil de pierre, comme si je m'étais évanoui. Aussi, le cinquième jour, quand le téléphone s'est mis à sonner, m'a-t-il fallu un temps fou pour me réveiller. « ça va », ai-je crié absurdement, encore emprisonné dans l'étoile d'araignée du sommeil et incapable de discerner ce qu'était ce bruit. Je suis peu à peu redescendu sur terre. La maison était froide, et par la fenêtre entrait un soleil tardif et hivernal. Je me suis dirigé, pieds nus, vers le téléphone qui continuait à crier comme un animal enragé. Je ne branchai jamais plus le répondeur, au cas où les kidnappeurs m'appelleraient. De mauvaise humeur, j'ai décroché le combiné. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Écoutez attentivement, c'est un message de fierté ouvrière. Je vais vous donner les instructions pour le paiement de la rançon. Écoutez attentivement, je ne les répéterai pas deux fois et vous n'avez pas intérêt à oublier. » C'était eux. Enfin, le sommeil s'était volatilisé d'un seul coup et s'était remplacé par une sorte de stupeur, le sentiment que quelque chose se déroulait au ralenti. J'ai pensé. Je suis seul. J'ai eu tous ces jours-ci de la compagnie. Et il se trouve que précisément maintenant, je suis seul. C'est vraiment pas de chance. J'ai pensé. Je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas écouter. Je ne saurais pas comprendre. Je vais tout oublier, tout confondre. Ramon sera assassiné à cause de moi. J'ai pensé. J'ai les pieds gelés. J'aurais dû mettre mes pantoufles. Il ne manquerait plus que je sois constipé. Toutes ces pensées m'ont traversé l'esprit pendant que l'homme faisait une très courte pause à la suite du point venant après à oublier. Il a aussitôt ajouté « Allez dans le grand magasin Mad & Spender et achetez une valise, le nouveau modèle Samsonite, la plus petite de la série, en dur, noir. Le vendeur attachera à la poignée un sachet du magasin. Ne vous en défaites pas. Retournez à la maison, mettez l'argent à l'intérieur de la Samsonite et collez à l'extérieur, avec du ruban adhésif, le reçu de l'achat. Retournez cet après-midi dans Mad & Spencer, au rayon des valises, et mettez-vous dans la queue de la caisse centrale, comme si vous vouliez la rendre. Posez votre valise à côté de vous, par terre, et regardez droit devant vous. Nous nous chargeons du reste. Vous devez être dans la queue à 19h précise. N'avertissez pas la police, sinon vous ne reverrez pas votre mari. » C'est tout. L'homme a raccroché, et j'ai continué à trembler. Comment avait-il dit qu'était la valise? De quelle taille? À quelle heure devais-je être là-bas? J'ai dû répéter plusieurs fois le message, l'extirpant de la mémoire mécanique auditive pour comprendre peu à peu son sens. Quand tout a été clair, je l'ai noté sur un papier et je me suis précipité chez Félix. Le voisin a réfléchi. S'ils insistent tant sur le reçu et sur le sachet en plastique accroché à la poignée, c'est parce qu'ils prouvent que la Samsonite n'a pas été volée. Autrement dit, ils ont l'intention de sortir du magasin, la valise à la main, comme s'ils étaient des clients et qu'ils venaient de l'acheter. Quel culot! Quel aplomb! Il faut du sang-froid pour traverser le magasin comme ça. Ils vont être parfaitement visibles avant de regagner la rue. On ne peut pas dire qu'il manque de cran. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a dit ces mots comme s'il était ravi de l'efficacité des kidnappeurs, comme si la dimension des ennemis donnait la mesure de sa propre gloire.
Dans ce deuxième extrait, le personnage Félix Roblet raconte un épisode de son histoire.
Après l'exécution du traître Moreno, tout a commencé à s'écrouler, a dit Félix Roblet. Moi, je buvais trop, et je n'étais pas le seul. Les anarchistes du début, les gens avec qui j'avais grandi, étaient d'une sobriété frisant la maniaquerie. Même le café leur semblait une drogue dangereuse. Mais maintenant, certains d'entre nous buvaient, et d'autres commençaient à se montrer trop dépendants de leurs armes et de l'argent qu'ils se procuraient avec. Il y avait constamment des polémiques. Chacun d'entre nous avait ses propres vues sur la stratégie à suivre. J'ai commencé à m'éloigner du groupe et de mon frère. Non pas de façon volontaire et consciente, non pas parce que j'avais de fortes attaches ailleurs, mais parce que j'étais à la dérive. Je me sentais vide, un papier froissé traîné par la brise. C'est alors à cette époque où j'étais vide et hébété que j'ai fait la connaissance de Manitas de Plata. Je me souviendrai toujours de la date, le 7 mai 1949. Après ce qui s'était passé avec Moreno, l'organisation de Barcelone était dans un sale état. Victor a eu alors l'idée de remettre sur pied les Solidarios. Elle consistait à créer une guérilla urbaine totalement indépendante du syndicat clandestin. Le groupe d'activistes serait composé de personnes venues de l'extérieur, de gens sans problème pour les archives policières, dont les membres de la CNT locale ne sauraient rien. Comme ça, si la direction du syndicat tombe à nouveau, ce qui, vu l'état des choses, est très probable, ils ne pourront pas dénoncer les Solidarios, a dit Victor. Très bien, nous remontons à un groupe de pistoleros en Espagne, et alors ? À quoi tu crois qu'on va arriver ? Ai-je objecté. Ces derniers temps, je me posais à tout ce qu'il disait. À quoi on va arriver ? Tu n'as pas l'air d'être le fils de ton père ? Se battre, bordel ! Voilà, voilà à quoi on va arriver. Se battre contre les oligarques et les fascistes. Comme toujours, frère. Comme toujours. Victor avait raison et en même temps il se trompait. La lutte ne nous menait nulle part. Mais par ailleurs, lutter était tout ce qui nous restait. Si bien que j'ai fini par me plier à sa volonté, comme presque toujours. J'ai été le premier à aller en Espagne, en éclaireur, pour organiser l'infrastructure. À vrai dire, je l'ai remercié de m'avoir confié cette mission. Elle m'obligeait à me discipliner de nouveau et elle me tirait de la boulie. De plus, je risquais de mourir en mission. Non pas que je voulais vraiment mourir, pas encore, ce serait plus tard. Mais à cette époque, la vie avait incontestablement perdu à mes yeux son sel et son sens. Et se mettre en danger avait au moins l'attrait de donner un certain sens à l'existence. Survivre jusqu'au lendemain. Je suis donc arrivé à Barcelone à la fin du mois d'avril 1949, après avoir franchi clandestinement la frontière. J'avais sur moi de magnifiques faux papiers, qui en fait étaient légaux. Ils appartenaient au petit ami d'une adhérente de la CNT, un garçon qui s'était tué en tombant d'un toit. Il était orphelin et sans famille, et les camarades avaient eu la présence d'esprit d'enterrer le cadavre en secret afin de pouvoir utiliser ses papiers. Maintenant, j'étais ce garçon. Je m'appelais Miguel Pelaez. J'étais maçon et j'avais 30 ans. En réalité, j'avais 35 ans et je ne savais pas manier la truelle. Aussi me suis-je installé dans une pension des Ramblas et ai-je trouvé du travail au port, comme docker.
Dans ce troisième et dernier extrait de La fille du cannibale que nous vous lisons, l'enquête de nos héros est au point mort et ils semblent désabusés.
Comme il fallait s'y attendre, découvrir que le commissaire Garcia était mêlé à l'affaire m'a donné des frissons. Après que j'ai été sauvé in extremis de ses griffes par le peloton de maire courroucé, Adriane, Félix et moi, réunis en conclave intime et urgent dans la cuisine, avons décidé d'abandonner pour le moment la recherche de Ramon et de partir immédiatement vers quelque endroit secret et sûr. « Mais en fait, vous n'avez pas à partir ?» ai-je objecté, la bouche pincée, parce que je n'avais aucune envie de m'enfuir seul. « Moi, j'irai où tu iras, » a dit tendrement Adriane, comme on chante un refrain de boléro. « Et par ailleurs, il me semble que ni Félix ni moi ne serions très en sécurité si nous restions ici. » « Oui, bien sûr, » a corroboré le vieux Félix. « De plus, je crois que j'ai déjà une petite idée de l'endroit où aller. La meilleure cachette, voyez-vous, est souvent la plus proche. Le frère de Margarita a toujours une ferme dans le village de Somosierra. C'est une très vieille bâtisse où il habite seul parce qu'il est veuf et que ses enfants sont partis en ville. Il m'a très souvent proposé de venir y passer quelques jours avec lui. » Il va bien nous recevoir, c'est sûr et certain, et même si l'exploitation n'est qu'à quelques 80 km de Madrid, elle est en fait à 100 années-lumière de là. Là-bas, on ne nous découvrira jamais. Le projet avait en plus le mérite d'être bon marché. J'étais à ce moment-là dans une situation économique quasi catastrophique. Le salaire de Ramon avait été, par précaution, bloqué. Nous avions bazardé en deux temps trois mouvements le million de pesetas qui restait du butin et il y avait très longtemps que je n'avais pas écrit une seule ligne. Quelques semaines auparavant, j'étais allé voir mon éditeur pour lui demander une avance sur les droits de mon prochain livre. Comme toujours, on ne peut plus aimable, Emilio s'était confondu en excuses et en éloges exagérés sur mon œuvre. « Tu sais que j'adore ta cocotte Belinda, tu sais que pour nous, tu es notre locomotive. » Mais malheureusement, nous traversons justement une mauvaise passe. Nous avons dû renégocier plusieurs engagements et notre situation est très délicate. Il n'est pas exclu que la maison d'édition coule. Je le regrette infiniment, Lucia, mais je ne peux pas t'aider. » Adrian n'avait jamais eu un peseta sur lui et je refusais de tarir les maigres économies du pauvre Félix, si bien que l'état de nos finances commençait à être assez inquiétant. Aussi, la proposition de Félix fut-elle accueillie avec un intérêt particulier. Nous avons décidé de nous en aller immédiatement et nous nous sommes précipités pour faire nos valises. J'ai appelé mon père et ma mère et leur ai expliqué que je partais pour quelque temps à Paris. « Très bien, mon trésor, c'est sûr que tu en as besoin avec cette horrible histoire de kidnapping. Ah, comme j'aurais aimé pouvoir aller à Paris quand je me sentais déprimé. Mais voilà, de mon temps, c'était impossible. C'est à peine si j'avais de l'argent personnel, puisque ma carrière se déroulait à l'ombre de celle de ton père. Et ensuite, tout ça, pourquoi ? Tu peux me le dire ? En plus, il y avait toi au milieu, et je ne pouvais pas te laisser seul. Ce n'est pas que je le regrette, comprends-moi bien, mais tu n'as pas idée comme tu as bien fait de ne pas avoir d'enfant, » a dit ma mère. « Formidable ! Comme ça, tu pourras me rapporter une superbe veste que j'ai vue sur un ami. Elle vient d'une boutique des Champs-Élysées. Au fait, tu as des nouvelles de Ramon ?» a demandé mon père. Leurs commentaires ne m'ont nullement surprise. Ils ont tous les deux joué parfaitement leur rôle respectif. Ils ont toujours été incapables de dire ce que j'avais besoin qu'ils me disent.
Thank you.
allons vous proposer quelques extraits du roman « Les cahiers de Justo Garcia ». Premier extrait. Ayant fui les combats auprès de Madrid, Justo Garcia et son escouade se replient vers le nord où l'armée républicaine essaye d'organiser la riposte.
Hier, on n'a pas mangé, à moins que certains n'aient fait des réserves de miettes dans les couvertures de leurs musettes. Aujourd'hui, en revanche, on est tombé sur un champ plein de navets, gelés pour la plupart. On les a nettoyés, coupés en morceaux et fait cuire plus de 3 heures dans une bassine, avant de les mélanger avec un peu de son, fauchés il y a 3 jours à des gars de la cavalerie. Heureusement, il n'est venu à l'esprit de personne que c'est avec ça qu'on nourrit les cochons. Nous avons même pu y ajouter du sel. Ceux de la bande de Saturino avaient gardé un peu de lard qu'ils ont ajouté à la soupe en cachette pour ne pas avoir à le partager, en bons communistes qu'ils sont. Parmi les hommes, certains sont gais, d'autres au contraire sont graves et sombres. Certains racontent des blagues, d'autres s'éloignent pour ne pas avoir à écouter des plaisanteries qui ne font qu'aggraver leur désespoir. On vient de quitter les dernières plaines de l'Èbre, et on avance parallèlement aux Pyrénées vers l'est sans se décider pour le sud, ce qui reviendrait à retourner à Barcelone, chose qui ne nous vient même pas à l'idée, ni pour le nord, ce qui signifierait la débâcle définitive. Issue que personne, même si on la sait inéluctable, n'est encore disposé à accepter. Autrement dit, depuis qu'on a été détaché de l'armée de l'Est, à la suite des accrochages de Balaguer, on avance sans cap, complètement perdu, et si étrange que ça paraisse, on préfère ça, ou nous diriger définitivement vers le nord-est, traverser la frontière et en finir au plus tôt, comme il paraît qu'on demande à d'autres unités de le faire. Il a plu toute la journée, hier aussi, la veille, l'avant-veille aussi. Il pleut sans arrêt depuis des semaines, jour et nuit. Le paysage ne change pas, tout est pelé, les arbres effeuillés, jamais un endroit dont on pourrait dire quelle splendeur. Les villages sont pauvres et lugubres. Et les maisons, soit en ruines, soit pulvérisées par les bombes, inhabitables. Si la température baissait, la pluie se transformerait en neige. Je ne sais pas ce qui serait le pire. La pluie ne dérange pas les paysans du groupe, comme elle nous dérange, nous, citadins. La terre, disent-ils, en a besoin, après les semailles. Ils font pitié, mais ils le disent sans penser à mal, à croire qu'ils sont idiots. Qu'ils n'ont pas compris que la campagne, c'est fini pour eux, les semailles aussi, qu'il ne nous reste plus rien, ça leur échappe. Tant qu'à faire la guerre, on se passerait bien de la pluie, mais non, paysans avant tout, ils aiment la pluie parce que la pluie apporte la richesse. À qui ? À ceux qui possèdent la terre. Au fond, ils préfèrent que la récolte profite aux propriétaires plutôt qu'elle ne pousse pas. C'est en cela que leur naïveté les rend, à mon avis, pitoyables. On l'entend dégringoler dehors, le long des gouttières. Une flûte cassée remplie de son mat et plaintif, qui en a déjà endormi plus d'un. La pluie qui tombe sur les branches nues fait aussi un son très particulier, comme sur des boyaux de chat. Un son qui pénètre ton âme et te ferme les yeux sans pour autant t'endormir. Juste ce qu'il faut pour penser aux choses les plus funestes et injustes. Un quart d'heure avant la nuit. Ici, dans les montagnes, la pluie tombe en un battement de cils et le soleil met beaucoup plus de temps à sortir qu'ailleurs. Ces collines me font penser à la bosse du dromadaire de la ménagerie de Madrid, grise et pelée. Par moments, on sent que la pluie voudrait se faire neige sans y parvenir. J'en viens à me demander si la neige ne serait pas un moindre mal. Pour les paysans, c'est du pareil au même. Les deux sont bien en ce qui les concerne. Encore que la plupart d'entre nous redoutent la neige. On pense à l'hiver dernier, à la perte de Teruel, à tous ces hommes morts de froid et de pneumonie. Dans notre groupe, ça résiste plutôt bien. Seuls 3 sont un peu malades. L'un tousse sans arrêt, l'autre a la fièvre quartée qui se déclenche sans faille tous les 4 jours. Et le dernier a reçu de la mitraille, dans la fesse pour parler vrai. Comme dit le sergent, ça lui apprendra à vouloir s'enfuir. Il y aurait de quoi rire si la blessure du gamin ne s'était pas infectée. Il faut lui nettoyer le pus tous les jours. Il ne s'assit que d'un côté et dort en chien de fusil, mais ça ne le gêne pas pour marcher. Tous les jours, notre infirmier, un étudiant en médecine, que nous appelons Miguelé, de Valence, lui lave les plaies avec des compresses de lavande. Pour le môme en question, originaire d'un village près de Tolède, c'est très humiliant. Il demande toujours qu'on le soigne un peu à l'écart. Mais parfois, comme aujourd'hui, où l'on est parqué dans cette bergerie, ce n'est pas possible, parce qu'on est à l'étroit, et qu'ailleurs il se ferait tremper, puisqu'il pleut. Le capitaine nous a donné l'ordre d'allumer un feu. Faute de bois sec, on a démonté quelques lattes et solives du toit, et on les jette dans le feu. On attend qu'elles aient fini de brûler pour en remettre, mais c'est embêtant, car plus on en enlève, moins on a de place pour rester à l'abri. Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien malgré tout. On a eu des moments plus difficiles. Certains ont mis leur couverture à sécher, et l'odeur qu'elle dégage mélangée à celle du fumier humide est nauséabonde. Mais les paysans aiment. En entrant, il y en a un, lui aussi de la province de Tolède, qui a respiré à plein poumon pour déclarer avec un brin de mélancolie que tout ça, l'odeur, la bergerie, lui rappelait une ferme de Demblenke, son bled. Il aurait pu aussi bien humer des roses. Je confirme, pas méchant, mais à moitié idiot.
L'escouade de Justo Garcia s'est disloquée. Il s'est retrouvé seul. Il vient de passer la nuit au creux d'un arbre et au petit matin, il aperçoit une maison.
Je suis toujours là. Je bouge encore. J'écris ces lignes, mais qui me dit que ce ne sont pas les mots d'un cadavre ? Les choses que j'ai vues sont celles que l'on voit en enfer. J'ai marché 10 minutes à peine. Le chant du coq m'a conduit à une maison en ardoise, petite, sur un terrain incliné, au toit noir, en ardoise aussi, posé en écaille et situé à côté d'un ruisseau très bruyant. J'en ai déduit qu'il s'agissait d'un moulin, et c'était le cas. Tout était enneigé, blanc. J'en avais mal aux yeux. Les collines se sont voilées d'un suaire. Elles font peine à voir, couchées, transies de froid. Les arbres de la vallée, les branches nues, sans feuilles mais chargées de neige, ressemblent à des squelettes de fantômes venus se baigner dans la rivière, et la neige aux draps dont ils se revêtent. Je me suis approché avec précaution, étant obligé d'avancer à découvert. Je n'ai que le parapluie pour me défendre. J'ai entendu des voix et je me suis planqué, derrière des fougères, à plat ventre, dans la neige, si bien que j'étais trempé. La maison se trouvait à une vingtaine de mètres. Des hommes sont sortis. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait des morts, comme les deux de Ripoll. Mais non, c'était bien des Espagnols. Sans doute du Tabor de Ruggelares, les troupes d'Afrique du Nord. Accompagnés de 3 autres gars, en uniforme d'infanterie, 5 au total. Ils étaient pressés de sortir. Ils riaient. Ils parlaient à voix basse et l'un d'eux a tiré un coup en l'air. Avec la neige, l'écho s'est répercuté de colline en colline. Les autres, pour s'amuser, ont tiré des coups en l'air et vers le ravin pour en vérifier l'effet. Ça les faisait rire et ça voulait dire que le reste de leur troupe était dans les parages. Devant la porte, un chien était attaché à un poteau et vautré au milieu d'une mare de sang. Un petit chien, les yeux à moitié ouverts, vitreux et jaune, la gueule serrée. Le sang, mélangé à la neige, rendait le spectacle encore plus triste que s'il avait été répandu sur la terre brute. J'ai su au premier instant que c'était une maison pleine de morts. Une de plus. Comme tous ceux qui ont commencé cette guerre, je la termine en ayant appris à flairer la mort. La mort a une odeur particulière, une odeur de renfermé, même en plein air. Et la mort avait investi les lieux. Dans une des pièces du bas, à droite, en entrant, près d'une porte en bois foncé, une jeune femme était allongée par terre, nue. On lui avait coupé la gorge et tranché les seins. L'un d'eux avait été plaqué contre le mur, chelé, et l'autre empalé sur un des barreaux du lit de fer. 2 morceaux informes de graisse blanchâtre, pris dans une résille de vénule rouge. Je crois que ça m'a à peine impressionné. C'était comme si je n'étais pas celui qui voyait ça. Tellement c'était ignoble. Dans des cas pareils, on réussit à se convaincre qu'on va se réveiller d'un instant à l'autre, tout en comprenant qu'on ne craint plus rien. Parce que celui qui a été témoin d'une scène pareille est déjà mort. Il ne veut plus appartenir à la race humaine. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'étais mort. Et j'ai cessé d'avoir peur, d'être dégoûté. J'ai cessé de pleurer sur mon sort. J'ai cessé d'éprouver de la haine pour ceux qui avaient commis ces crimes. Je ne ressentais plus que de l'impatience, à me demander combien de temps encore j'allais rester là. En y repensant, je ne sais pas comment j'ai pu passer d'une pièce à l'autre. J'avançais sans effort. J'étais déjà un fantôme. Dans la pièce attenante, une autre femme gisait, étalée de tout son long sur les tomettes rouges. Elle aussi avait visiblement été violée. Ses jupons retroussés laissaient apparaître des fesses colossales, laiteuses et épaisses, sur lesquelles quelqu'un s'était essuyé les mains pleines de sang, un coup de patte sanglant de la barbarie humaine. Un bruit m'a fait sursauter à ce moment-là. Pas de peur, uniquement par méfiance, comme les lépreux qui, dès qu'ils voient un étranger, courent se cacher dans leur cave. ou comme les morts qui reviennent du royaume des morts, à condition de rester invisibles. Je me suis dit, les régulares. Mais c'était absurde. Pourquoi reviendraient-ils? J'ai pensé, ils vont dire que c'est moi. Tout ça en même temps. Quand on a peur, les choses qui vous traversent l'esprit sont transparentes. Elles se superposent, sans se substituer. La peur élimine toute logique. C'est parce que ces angoisses se présentent simultanément qu'à la peur succède la panique, chacune amenant sa charge d'irrationalité. Le ruisseau grossit, déborde et finit par tout emporter. Mais moi je n'avais pas peur puisque j'étais mort. Je ne voulais pas qu'on me voie, c'est tout. Je me suis caché sous le lit. Le visage de la vieille était collé au mien. C'est à ça que j'ai compris que j'étais mort. À moins d'un mètre, une femme, les yeux en sang, l'oreille aussi, celle qui était de mon côté, me fixait terrorisé. Mais je n'ai rien ressenti, parce qu'on était dans le même état. Je suis resté planqué un bon quart d'heure, au cas où les régulares reviendraient fouiller la maison. Finalement, n'ayant rien entendu de plus, je suis sorti et à nouveau j'ai perçu ces petits bruits. Ils venaient de la pièce dans laquelle ils avaient tué la femme. Et là, dans un renforcement étroit, séparé par un pan de persal fleuri, j'ai trouvé un nourrisson. Il a fêté cette rencontre en agitant les bras dans tous les sens. C'était un nouveau-né très chevelu, laid, aux petits ongles tout noirs, au sourire cocasse. Les régulares ne l'auraient pas épargné s'ils l'avaient découvert. Je n'y ai pas pensé sur le moment, mais maintenant je suis convaincu qu'une chose en amène une autre, et que si je n'avais pas trouvé cet enfant, je n'aurais pas quitté ces collines.
Dans ce troisième extrait, Justo Garcia est alité dans une pension à Toulouse et il se rappelle ce qu'il a subi au camp de Saint-Cyprien.
Les fous, protégés par la nuit, convaincus que le vent emportait leurs paroles, gémissaient sourdement. « Je veux mourir, je veux mourir !» On entendait ça, 100, 200 fois par nuit, venant de 100, 200 soldats courageux. Des hommes mûrs et droits, des intellectuels, des sages, des grands hommes politiques. On leur disait « N'y pense plus, camarade, et dors, il faut dormir. Pour survivre, il faut dormir. Pour vivre, il faut mourir un peu. Et oublie, cesse de penser. Demain sera un autre jour. » Le grand ennemi, quoi qu'on en dise, c'est toujours de trop penser. De tourner en rond dans sa tête. Mais comment dormir avec ce vent qui galopait sur nos cadavres? On se réveillait pendant la nuit, et en voyant ces milliers de corps étendus sur le sable, on se croyait déjà de l'autre côté. Certains avaient réussi à faire entendre leurs cris de désespoir. On les trouvait morts le lendemain matin. On les sortait du camp, on confiait les cadavres aux gendarmes, qui les entassaient derrière la baraque et les embarquaient rapidement par la même fourgonnette qui servait à transporter nos maigres rations. Ils livraient les débris de pain rassis et emportaient des ballots humains. Chaque jour. On ne le cherchait pas à savoir, on s'en débarrassait. Si l'un de nous connaissait la famille, il gardait les objets personnels pour les restituer, sinon on se les répartissait. On meurt d'une balle, d'un éclat de mitraille. C'est dans la nature de la guerre. Mais comment conserver le moindre espoir face à un homme qui va mourir et te regarde sans comprendre pourquoi? Un homme qui dégage une odeur pestilentielle parce qu'il porte les mêmes vêtements depuis 3, 4 mois sans s'être lavé une seule fois. Dans lesquels il s'est pissé dessus une nuit, pendant laquelle il a eu peur de mourir de froid et a cru pouvoir uriner un peu sur ses jambes pour sentir quelque chose d'humain sur lui, ne serait-ce que de l'urine. Quelque chose de chaud, un homme qui a compris à temps qu'il devenait fou, même s'il l'a compris 2 secondes trop tard, alors qu'il avait déjà pissé dans son froc. Un homme néanmoins qui se raccroche à une phrase pour supporter la douleur. Il se dit tout ça, c'est un rêve, je me réveillerai. Et ce sera un rêve, je serai propre, débarrassé des poux, j'aurai mangé, je me serai lavé, je serai un autre homme que celui qui est ici, qui veut mourir, mais qui rêve de se réveiller de cette mort. Regardez bien cet homme. Là, sur la plage, en face de la mer glacée, il n'en avait pas un, mais 1000 comme lui, tous pareils, enroulés dans des couvertures, grelottant de froid, martelant le sol pour éviter que leurs pieds ne gèlent. Le même visage, partout les mêmes yeux, tournés vers rien. On implorait le ciel de nous donner la mort, même si on n'en parlait pas, certains pleuraient, d'autres non, mais on pensait que tout ça s'arrêterait. D'un coup, avant que le froid et le vent aient raison de nous, avant qu'il recommence à neiger. Beaucoup sont morts, c'est vrai, mais beaucoup moins que ceux qui réclamaient la mort de tout leur être. On s'organisait correctement. Faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à organiser. 50 grammes de pain par homme et par jour. À midi, on nous servait 2 cuillerées de riz cuit, un immonde mélange gluant. Le plus cocasse, aurait dit Pigeon, c'est que c'était fadasse, avec toute l'eau salée qu'il y avait là. D'autres jours, on avait plus de chance. 20 lentilles, 10 pois chiches, des fèves et un misérable bouillon cube. En quelques jours, les ennuis intestinaux ont commencé. Il y avait 2 points d'eau dans le camp, mais comme on avait creusé des latrines à côté, et que ces latrines ont débordé de matière fécale en moins d'une journée pour devenir un bourbier d'urine et de merde, l'eau a fini par être contaminée et on avait une eau pourrie, elle sentait mauvais et je ne parle même pas du goût. Il y avait eu d'abord les coliques. Les autorités sanitaires le savaient mais détournaient la tête. Une infirmière, à qui je suis allé demander quelque chose pour arrêter la colique, m'a répondu « Évitez de boire l'eau ou faites-la bouillir ». Ça m'aurait étonné. Avec quel feu? On nous a installé des réchauds, 4 réchauds pour 5000 personnes. Je n'arrive pas à savoir si ces Français sont idiots ou s'ils font semblant de l'être. « S'il vous plaît, se plaignaient certains, nous avons froid. » Un garde leur disait « Couvrez-vous. » Ou « J'ai de la fièvre, » se plaignait un autre. Et il lui disait « Tâchez de ne pas prendre froid. » L'air du camp était fétide. On voyait les gens partir en courant pour se soulager, ne pas arriver jusqu'à l'endroit prévu pour ça, près du criage, la mosquée comme on l'appelait, sans mettre plein le pantalon, les pauvres, et devoir le retirer et le laver sur la plage, les jambes maigres et blanches, mal protégées par une couverture, et être obligé de rester des heures et des heures debout, à côté du pantalon, lavé à l'eau de mer, et tendu sur des fils barbelés, en attendant qu'il sèche par ce vent froid et humide. Toujours sur le qui-vive, sans quoi il était certain que quelqu'un le leur piquerait. On m'a bien volé mon caleçon. Je l'avais lavé et mis à sécher. Quand je suis revenu, il n'était plus là. Je n'en avais pas d'autre. Je n'ai rien dit à personne, et quand j'ai vu un type laisser le sien sur la clôture, je le lui ai volé. Un caleçon qui n'était rien qu'un bout de chiffon. Il ne valait rien, une guenille. Il y a de quoi pleurer. C'était ça le pire. Se surprendre à commettre ce genre d'acte odieux. Voler un caleçon. Si mon père, ami de Pablo Iglesias, savait à quoi nous étions réduits, les gendarmes éprouvaient une joie immorale à nous humilier comme ils le faisaient, avec méthode. Et nous, on ajoutait à cette humiliation une spirale de dégradation. Chaque jour, nous descendions d'un échelon. Je savais que c'était mal de voler le caleçon de quiconque. Évidemment. Mais sans caleçon, laine à vif avec des poux et des lentes, ça me brûlait tellement que je ne pouvais pas avancer d'un pas. Je n'ai pas pensé aux poux du propriétaire de ce caleçon, et celui qui m'a volé le mien, pour commencer, n'y avait pas pensé non plus. Pareil pour ces Espagnols passés, ramasser les restes que le détachement de soldats français jetait derrière ces baraquements. Certains sont sortis avec de grands airs. « Alors, il est où l'orgueil espagnol ? » demandait-il. « L'orgueil ? On l'a déjà mangé. » Et on a encore faim.
C'est la fin de ce numéro 2 de cette émission Fahrenheit 451, où nous étions pour ce soir en Espagne avec 2 romans, l'un signé par Rosa Montero, le roman s'appelle La fille du cannibale, et le second, Les cahiers de Justo Garcia d'Andrés Trapiello.
Voilà, alors vous avez pu apprécier de la musique rock teintée de surf. C'était le groupe The Vivisectors avec des morceaux de leur album Wild Tales of Ghostly Islands. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième numéro de Fahrenheit 451. Olivier et moi, on vous dit à bientôt, bonne soirée et rendez-vous le mois prochain.
C'est ça, à bientôt.
Ciao, ciao.